Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
La blague du jour. Dans un supermarché, deux gars se choquent frontalement avec leur caddie. Indigne, l'un d'eux réclame « Hey, vous ne pouvez pas faire attention !»« Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je cherchais ma femme. »« Tiens, quelle coïncidence, moi aussi je cherche la mienne. »« Elle est comment, votre femme ?»« Eh bien, elle est grande, brune, les yeux d'un bleu très profond, des jambes extrêmement bien faites, une poitrine généreuse, des lèvres charnues. » Elle porte un tailleur noir, très serré et décolleté, un peu trop peut-être. Un chemisier transparent, et la vôtre, comment est-elle? Eh bien, laissez tomber, on va aller trouver la vôtre. Allons trouver la vôtre.
Le composé organique CH3CH2OH que l'on peut obtenir à partir de canne à sucre, de betterave, de sirop de miel, de fruits, dont les fameux raisins. Oui, toutes ces boissons qui nous tournent la tête, vous avez compris, nous allons parler ce mois-ci de l'alcool. Apparu accidentellement au néolithique lors d'un stockage heureux ou malencontreux, l'homme que nous appellerons Luc pour des raisons évidentes de prononciation, donc Luc, un beau matin, découvre dans un pot néolithique un breuvage douteux issu de la fermentation de fruits oubliés pendant l'hiver. Notre ami Luc, d'un naturel curieux et surtout peu scrupuleux, goûta ce mystérieux breuvage et, après l'avoir testé à plusieurs reprises, y prit un certain goût. Goût qui lui tiendra fort longtemps, car plus de 10 000 ans plus tard, donc au 21e siècle, nous retrouvons nos amis Luc qui continuent consciencieusement à oublier leurs fruits dans divers pots, fûts, cuves et autres tonneaux, afin de continuer à profiter de ce plus très mystérieux breuvage.
Avant, je buvais, mais je n'étais pas alcoolique. Aujourd'hui, je ne bois plus, je suis alcoolique. Ça paraît simple, mais pour en arriver là, il a fallu faire du chemin, de la réflexion. Confronté à ce problème, il est important de se faire aider. Aujourd'hui, nous accueillons M. Cristobal Emmanuel, directeur adjoint de l'association L'Abri, qui va évoquer avec nous son travail autour de l'hébergement et des addictions. Cette rencontre sera illustrée d'un micro-trottoir autour de l'alcool. Nous vous proposons aussi un assortiment de textes sortis de notre atelier d'écriture Le Point des mots, agrémenté de quelques gazouillis de Jean de la Lune et en exclusivité mondiale le premier épisode de notre série médicale, Le Narvalo. Afin que sans alcool la fête soit plus folle, nous vous concocterons un petit breuvage exotique. Enfin, la chronique du pôle traitera de l'accueil que nous proposons aux personnes confrontées au problème de l'alcool.
On est fou de se croire libre ou libre de se croire fou. Il dit non à la vie, mais oui à la survie. Il dit oui à ceux qui sont aidants. Il dit non aux médicaments. Il est comme ça. On le case dans ce cas-là. Et tous les problèmes, quoi en faire? Soudain, le fou prit ses affaires et il partit sans avoir rien à faire. Les chiffres, les dates lui prenaient la tête. Les phrases, il ne les entendait pas. Et malgré cela, il faisait abstraction de tout l'entourage sur leur huée. L'artiste avant-gardiste, avec ses craies, peigna sur le tableau de la place publique. Il dessina ce que les autres ne comprenaient pas. Avait-il raison avant les autres? Un texte de Stéphane.
Nous venons d'écouter Nadia de Jeff Beck. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir notre invité, qui est Monsieur Cristobal, chef de service de l'abri, qui va nous parler de son expérience professionnelle concernant l'hébergement des personnes en situation de précarité et les problématiques alcool que l'on peut rencontrer. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que l'abri en fait ?
Alors juste avant, je voulais vous remercier d'avoir rectifié que j'étais que chef de service et pas directeur adjoint de l'association l'abri. Ça viendra peut-être en son temps. Pour l'instant, je suis chef de service.
Très bien. Donc, monsieur le chef de service, qu'est-ce que l'abri ?
Alors, l'abri est une association loi 1901, qui compte aujourd'hui 20 services différents sur les champs du médico-social, du social, de l'accueil d'urgence. Nous sommes aujourd'hui près de 70 salariés.
D'accord. Et quel public recevez-vous ?
Alors pour ma part, moi je suis responsable d'un service qui est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. On accueille des hommes de 18 à 60 ans, parfois un petit peu au-delà quand il faut. Des hommes isolés, en rupture pour une grande part d'hébergement, de famille, de liens sociaux. Voilà.
Comment fait-on pour bénéficier d'un hébergement ?
Alors il y a une procédure qui est qui peut paraître un peu compliquée, mais qui permet de fluidifier sur l'ensemble du département, l'ensemble des accueils sur les CHRS. Pour cela, il faut rencontrer un travailleur social de secteur, du conseil général, un travailleur social d'une autre structure d'hébergement, et puis on le rencontre, et au-delà, on va commencer à discuter d'une orientation possible vers un centre d'hébergement. Ça passera obligatoirement par un service SIAO, c'est le service 115, pour ceux qui connaissent le numéro 115, numéro pour les personnes sans abri.
Où sont situés vos locaux ?
Alors, pour le CHRS, nous sommes rue Romain Rolland. La rue Romain Rolland, c'est sur le quartier de la Madeleine, en plein cœur de la cité, au milieu des habitations du quartier de la Madeleine. On est situé globalement en face du McDonald's, ce qui donne pour l'ensemble des hébroïciens un bon repère.
D'accord. Quel type de professionnel travaille donc dans votre équipe ?
Alors, on a voulu au sein de l'association avoir des profils de professionnels les plus larges possibles. On a des professionnels évidemment du travail social, des gens qui sont CESF, donc conseiller en économie sociale et familiale, assistant de service social, éducateur spécialisé, moniteur éducateur. Voilà, des gens qui ont des approches techniques et des approches professionnelles un peu différentes et qui nous permet d'avoir une réponse qu'on veut globale pour accompagner les personnes qui sont accueillies au sein du centre d'hébergement.
Avez-vous des partenaires extérieurs ?
Énormément de partenaires extérieurs. On travaille sur un ensemble de dimensions de la vie personnelle des gens qu'on accueille, que ce soit familial, que ce soit sur l'aspect budgétaire, que ce soit sur l'aspect de l'hébergement, que ce soit sur les aspects santé. Là, aujourd'hui, on est venu pour parler un peu santé. Et on a effectivement un réseau de partenaires très, très important. À peu près toutes les associations peuvent devenir partenaires.
Les personnes que vous accueillez ont-elles des problèmes d'alcool et comment les gérez-vous ?
Oui, c'est un problème qu'on rencontre de façon massive. La consommation d'alcool, qu'elle soit, gérée ou mal gérée, ou qu'on soit dans un abus, dans un excès, dans un usage qu'on pourrait considérer comme nocif, oui, c'est des problématiques qu'on rencontre de façon assez régulière.
Et quelles sont les conséquences sociales de cette dépendance ?
Alors souvent, les conséquences, elles sont déjà présentes. C'est-à-dire qu'on arrive en CHRS lié parfois par un parcours de vie en rupture, notamment parce qu'on a perdu son emploi, parce que le réseau familial est plus présent, parfois directement lié à cette consommation d'alcool.
Et quand vous avez un public alcoolisé, comment vous les gérez ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué. On prend du temps, on l'évoque toujours. C'est-à-dire qu'il s'agit, à chaque fois qu'il est possible, de dire à la personne qu'elle est alcoolisée, qu'on va prendre du temps pour discuter avec elle de cette situation, essayer d'aborder un programme thérapeutique, former une alliance avec elle, et puis, si c'est sur le moment de crise, c'est-à-dire au moment où la personne se présente sur le centre d'hébergement fortement alcoolisée, on va l'accompagner à peut-être prendre un temps de repos avant de pouvoir réaborder les choses, mais toujours dire ce qu'on voit, ça c'est important.
On parle souvent de rechute. Est-ce que cela fait partie d'un processus de guérison ? Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre expérience par rapport à votre public que vous accueillez ?
Alors oui, la rechute, ça fait effectivement partie du processus de guérison. Moi, je ne connais pas une personne alcoolodépendante qui n'ait pas à un moment donné dans son parcours, idéalement, traversé sans avoir eu une rechute à un moment donné. Ça fait partie du processus de guérison, la rechute. C'est un temps où on doit être présent, où le milieu associatif, les travailleurs sociaux qui vont être auprès de la personne vont devoir poser des mots et dire que c'est normal et pas forcément renforcer un sentiment de culpabilité chez la personne. Dire non, c'est normal, ça fait partie du processus. C'est quelque chose que beaucoup d'alcoolodépendants traversent. Il va falloir positiver et reprendre le processus thérapeutique engagé. Travailler avec la personne sur une amélioration de ses conditions de vie et sur le sentiment que, globalement, sans alcool, sa santé est meilleure.
Et parfois, une personne alcoolisée peut avoir un comportement pas toujours adapté.
Oui.
Et communication parfois difficile. Comment vous gérez ça au sein de la structure quand une personne arrive très alcoolisée ?
Eh bien, on prend du temps. On va être patient. On va l'accompagner. On va être présent, parfois avec un travailleur social, parfois deux, pour éviter que se produise un problème de type violence. Hein, parce que là, on sait que sous alcool, les problèmes de violence sont plus manifestes. Si on regarde un peu les statistiques, on se rend compte que les difficultés, les passages à l'acte, les violences sont souvent caractérisées par le fait que la personne est alcoolisée. Donc on va prendre du temps. Moi, je demande aux travailleurs sociaux d'avoir une attitude qui soit la plus calme possible pour éviter qu'une crise de type classique, c'est-à-dire de la violence, soit perpétrée au sein du centre d'hébergement.
En préparant l'émission, on s'est rendu compte que c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent, sensible. Qu'en pensez-vous ?
Ben oui, c'est un sujet de société, hein. Donc évidemment que lorsqu'on parle de consommation d'alcool, et notamment d'abus, autour de nous, chacun, dans sa famille, auprès de ses amis, on rencontre souvent des gens qui souffrent d'une problématique d'addiction, une problématique parfois d'usage nocif de l'alcool, hein. Pas uniquement, on ne parle pas forcément de dépendance, mais d'usage nocif. 90% de la population consomme de l'alcool. Il y a 5% de personnes qui sont abstinentes volontaires. Il y a 5% de personnes qui sont considérées comme dépendantes. Mais il y a 90% de personnes qui utilisent l'alcool, consomment de l'alcool sans forcément avoir des problèmes, mais qui sont des populations à risque.
Est-ce qu'il y a un alcool plus dangereux que l'autre ?
Non, non, non. Tout alcool, enfin, on parle de la molécule tout à l'heure dans l'introduction. On a entendu parler d'une molécule un peu mystérieuse. Oui, c'est ça, c'est l'éthanol. Hein, on parle de la même molécule qu'on trouve dans le vin, dans la bière, dans le whisky ou dans d'autres alcools ou spiritueux. C'est la même chose.
À l'abri, y a-t-il des structures adaptées pour les personnes souffrant d'alcoolisme ?
Oui. Alors, au-delà du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, où on accueille des personnes qui sont sur un dispositif de réinsertion, il y a une structure qu'on appelle le XAPA, qui est une structure, un centre spécialisé qui permet d'accompagner les personnes qui sont dépendantes, addictives.
Donc là, on va faire un petit intermède en lançant rapidement le micro-trottoir que l'on a mis en place sur la différence entre consommer et être dépendant.
Et pour vous, quelle est la différence entre boire de l'alcool et être dépendant de l'alcool ?
C'est tout à fait différent. C'est-à-dire on peut boire de l'alcool occasionnellement, pour soit c'est chez soi ou avec des amis, être dépendant, c'est ne plus pouvoir s'en passer.
Je sais pas, je dirais que l'alcoolisme, c'est une façon de boire de l'alcool journalière et un peu plus volumineuse que peu. C'est difficile d'expliquer, hein, mais je sais pas. Voilà, régulièrement et surtout journalièrement. Et aussi seul.
D'accord.
Voilà, comme ça, c'est comme ça que je le définirais.
Je pense que boire de l'alcool, prendre un verre avec des amis par plaisir, être dépendant, c'est une maladie, quoi.
C'est pas du plaisir.
C'est pas du plaisir, non, pas du tout.
D'accord.
C'est plutôt une différence médicale, on va dire. C'est-à-dire que l'alcool, c'est, comme ils disent, à consommer avec modération. Et certains en abusent, quoi. L'utilisent comme moyen de pouvoir se noyer dans.
Comment vous connaissez la modération,
etc. Ça dépend de l'ampleur. De l'ampleur de la chose. Parce qu'il y a des gens, oui, chez certaines personnes, oui, c'est une maladie.
Ça devient une maladie.
Voilà,
devenir une maladie. Oui.
Vous pensez non ?
Moi, je penserais non.
Pensez quoi alors?
Ça peut devenir. Après, de là à dire que c'est une maladie pour une personne qui boit de l'alcool.
Là, c'est alcoolisme,
je crois. Ouais. Ouais. Dans l'alcoolisme, on est.
C'est quand?
Donc voilà, Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la différence entre consommer et être dépendant?
Alors, dans le micro-trottoir qu'on a entendu, il y a eu des choses intéressantes. Moi, j'ai relevé une personne qui disait « c'est la perte de la liberté de s'abstenir ». Ça, c'est une définition que Fouquet, c'est un alcoologue qui, dans les années 50, définit ça. La dépendance, c'est ça. C'est la perte de la liberté de pouvoir s'abstenir du produit. Et c'est une définition qui engage sur la question de la dépendance. Alors, la dépendance, on peut la définir sur plusieurs niveaux. Elle peut être physique. Voilà. Quand vous vous arrêtez de boire, vous avez des signes qu'on appelle des signes de sevrage, tremblement, trémulation, parfois chaud et froid. Voilà, ça c'est des signes de sevrage. Une dépendance psychique, j'ai perdu la possibilité de m'abstenir de l'alcool. L'alcool occupe une grande part de mon esprit. Et puis une dépendance, c'est-à-dire une tolérance de plus en plus importante aux effets que l'alcool induit. Cette tolérance, elle va induire des consommations de plus en plus importantes. Ce qui est important de définir par rapport à l'alcool, on disait tout à l'heure, sur les chiffres, il y a 5% de gens abstinents, ils n'ont jamais consommé d'alcool. Dans la population des 75 ans, il y a 7% de gens qui n'ont jamais consommé. C'est-à-dire qu'il y a 93% de gens qui consomment. Avec un usage qu'on peut dire simple, je prends de l'alcool, un apéro, avec des amis, en groupe, un usage simple, ça ne pose pas de problème de santé, ça ne pose pas de problème de sociaux, ça ne pose pas de problème psycho. Et puis, un usage qu'on pourrait considérer comme un risque. Je consomme plus de 3 verres dans la même journée. 4 verres, on commence à prendre un risque sur sa santé. Donc ce n'est pas un risque important, mais c'est un risque qui est potent. Et puis ensuite, on peut basculer dans l'usage nocif, où là, je vais consommer bien plus que raisonnable, et je m'expose à des problématiques, alors peut-être au départ liées à la législative, c'est-à-dire je prends ma voiture, j'ai bu 3 verres, je suis plus en capacité de prendre mon véhicule, le risque c'est de prendre une amende, perte de points. Je bois sur mon lieu de travail, ça peut induire des risques d'accident de travail, de moins bonne efficacité sur son lieu de travail. On est déjà dans l'usage nocif. Et puis, au-delà d'un certain nombre de verres, on peut évidemment avoir des problèmes de santé. Je tombe dans le coma, je mets ma vie en danger, j'ai des conduites, ce qu'on appelle ordralique, je me mets en risque.
Alors, est-ce que l'alcool touche toutes les catégories de personnes? Car on peut parler aussi, on entend parler d'alcoolisme mondain, par exemple.
Oui, absolument, il n'y a pas... À ma connaissance, hein, y a pas une catégorie en particulier qui est à l'abri plus que les autres du risque alcool. Pour moi, toutes les populations, moi, j'ai eu dans mon expérience personnelle à pouvoir rencontrer des gens qui souffraient de problématiques addictives, qui étaient en soins à l'hôpital de Bois-Guillaume. J'étais surpris de rencontrer un monsieur qui pouvait discuter avec le médecin alcoologue de façon très franche, très ouverte sur sa problématique, et il s'est avéré que c'est un médecin. Donc évidemment qu'il était capable de pouvoir discuter d'égal à égal avec son confrère, mais j'étais très surpris de savoir que voilà, même le médecin n'était pas à l'abri de cette problématique de santé, quoi.
Est-ce qu'on peut parler aussi d'alcoolisme, ce qu'on peut dire culturel? Parce qu'on sait qu'en France, on est des bons producteurs de vin, de calva.
Oui.
Donc il y a aussi, ça fait partie un petit peu des habitudes, notamment des Français, de consommer.
Tout à fait. Alors, il y a des choses intéressantes. Ce qui a été dit au départ en introduction était intéressant à ce niveau-là. Il faut savoir que la société, globalement, sans faire de cours et sans rentrer dans les débats un peu historico-philosophiques, on est quand même une société qui, globalement, est sur un modèle catholique. Et dans la Bible, vous avez 151 références à l'alcool. Les ancêtres, les Gaulois, ils avaient l'habitude, pendant les fêtes, de s'enivrer pour pouvoir avoir une rencontre avec les dieux et pouvoir comme ça un peu... C'était les bacchanales. Donc c'était des temps où on se mettait un peu à l'envers, on consommait beaucoup d'alcool. Ça permettait d'avoir une rencontre avec l'au-delà et pouvoir discuter avec les ancêtres et pouvoir peut-être aussi imaginer la suite et pouvoir comprendre comment ça fonctionnait. Si vous relisez la mythologie grecque, vous retrouvez aussi des références importantes à l'alcool. Donc on est comme ça perclus de références culturelles à la consommation d'alcool, partout, de tout temps. Ce qui est intéressant à mettre en perspective aussi, c'est de se dire que finalement, la maladie alcoolique, c'est une maladie récente. C'est-à-dire que l'alcool existe, on l'a vu, depuis 10 000 ans. Malgré tout, la problématique alcool, elle n'existe que depuis le XXe siècle. Pourquoi ? Simplement parce qu'avant, l'alcool était cher. Au XVIIIe siècle, les nobles utilisaient un certain nombre d'alcool un peu élaboré. Le reste de la population, c'était du vin. Et encore le dimanche, parce que c'était extrêmement cher. Il y a, sur Paris, dès que l'alcool rentrait dans Paris, le coût de l'alcool était multiplié par 3. Donc on pouvait consommer de l'alcool, un petit vin qui s'appelait le Piccoli. De Piccoli est devenu Piccolo. Et celui-là, il a traversé les siècles. Voilà, c'était... On ne consommait pas beaucoup d'alcool parce que c'était cher et ce n'était pas évident. Le XXe siècle, avec la révolution industrielle, il va faciliter l'accès, faciliter le transport et faciliter la production d'alcool à grande échelle. On va évidemment avoir plus facilement accès à l'alcool, ça sera moins cher et là on va se retrouver avec des consommations induites qui vont être plus longues, plus massives et on va rencontrer le problème d'alcoolisme. C'est lié aussi au fait qu'on a gagné en espérance de vie, et que les effets de l'alcool, ils sont souvent sur le plan de la santé, ils sont sur le long terme, et qu'il fallait pouvoir dépasser 60 ans pour pouvoir avoir effectivement l'apparition de ces effets sur le plan santé.
L'alcoolisme, est-ce une maladie ?
Oui, c'est une maladie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut accompagner les gens sur un aspect qui se voudrait... psycho, médico, social. Sur ces trois aspects-là. Il ne faut pas en oublier un en route, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Si on veut aller sur la voie de la guérison, il faut prendre en charge, aussi bien sur le plan médical, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan social. Si on ne règle pas les choses, on passe à côté de la possibilité de guérison. D'ailleurs, le terme de guérison en alcoolologie, il est sujet à débat. On peut parler de rétablissement, qui est peut-être une notion plus juste.
Et sinon, je pars sur une dernière question. Pour vous, le mythe de l'alcool qui réchauffe, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler. Qu'en pensez-vous ?
Oui, il y a aussi l'idée que le vin protégerait des problématiques de maladie du cœur. On a entendu ça à une période aussi. Ce qu'on appelait le French paradoxe, c'est-à-dire qu'on pouvait consommer de l'alcool, un verre de vin rouge, et ça protégeait des maladies du cœur. Bon, quand on regarde de près, ça a été plutôt au service de la viticulture française et de la vente, notamment au Japon, du vin français, ce qui a permis à nos viticulteurs de bien vendre au Japon et de développer de nouveaux marchés. Mais sur le plan de la santé, ça reste tout à fait sujet à caution. Et l'alcool réchauffe pas, non. L'alcool, il a un effet vasodilatateur. Donc effectivement, on peut avoir l'impression d'avoir plus chaud. Le souci, c'est qu'au contraire, on va être plus à même de recevoir et d'avoir les effets du froid. C'est ce qui explique parfois qu'on peut retrouver des gens à la rue ayant consommé de l'alcool qui oublie de se protéger et qui meurt de froid.
Ben merci pour cette interview.
Merci à vous.
Voilà.
Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later I'm moving to and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spend it with you. Oh, such a perfect day. Such fun. Just a perfect day. You made me forget my silver. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Drinking Baileys in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a day. Feed animals in the zoo. Then later I'm moving to and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.
C'était une reprise de Perfect Day de Lou Reed par les Jolly Boys featuring Albert Minotte. Et maintenant, nous allons écouter la petite cuisine d'Ozone Libre.
Bien, aujourd'hui, nous allons faire une recette donc très peu chère. C'est un cocktail donc, qui s'appelle Lassie à la mangue. C'est un cocktail donc, d'inspiration indienne. Ingrédients, une mangue, deux yaourts nature, l'équivalent des deux yaourts en eau et un peu de sucre. Donc, nous découpons la mangue, nous épluchons la mangue avec sérénité. Bien sûr, il s'agit donc d'un cocktail sans alcool. Alors nous sommes en train de découper la mangue donc en petits morceaux pour la mettre dans le bocal du mixeur. Nous allons mixer, verser et boire. Nous avons donc mis la mangue, les yaourts nature et l'équivalent donc des deux yaourts en eau. Nous allons mixer. Obtenu donc un mélange homogène, nous allons rajouter un peu de sucre. Vous pouvez soit rajouter du sucre en poudre ou du sucre vanillé selon votre goût. Remélangez un peu donc le sucre avec les différents ingrédients. Voilà, maintenant nous avons obtenu donc un mélange homogène donc de cette recette. Maintenant, donc, il ne reste plus qu'à goûter, à déguster sans modération.
Bien, nous allons reprendre donc notre micro-trottoir donc, concernant donc, l'alcoolisme et l'alcool, enfin le rapport entre l'alcool et l'alcoolisme. Nous avons donc à interroger d'autres personnes concernant ce sujet.
Moi, j'ai pas de casse, moi. Est-ce que l'idée de la fête, c'est associé à l'alcool ?
Pas spécialement. Ça en fait partie. Ça en fait partie.
Et vous ? Ça en fait partie aussi. C'est un plus.
Eh bien,
c'est un plus.
Ça en fait partie.
Oui, assez régulièrement. Malheureusement. Pourquoi ? Parce que l'alcool, on va dire festif, est quelque chose d'établi. À mon avis, oui, une source assez régulière de soirée.
Oui, parce que j'ai des surgelés dans le corps.
D'accord, alors je me dépêche. Alors, pensez-vous que l'idée de la fête soit associée à l'alcool ?
Oui.
Oui ?
Malheureusement, oui, maintenant.
Et pourquoi, alors, vous pensez ?
Parce que j'ai eu des soucis avec mon fils.
D'accord.
C'est que lui concevait pas de sortir sans boire.
D'accord. Il a quel âge ?
Maintenant, il avait 20 ans. Maintenant, il en a 25, il voit ça différemment, mais...
À 20 ans, en tout cas ?
C'était associé, automatique.
Pensez-vous que l'alcoolisme soit une maladie ?
Je pense, oui.
Ouais.
Oui.
Ouais.
Oui, je pense, à un certain degré, oui, ça devient une maladie, comme toutes les addictions graves. Oui.
Oui. Difficile de développer. Après, moi, je ne suis pas médecin, mais oui, je dirais que oui, c'est une maladie.
Et... Oui, tout à fait.
Oui.
Je sais de quoi je parle.
D'accord.
Voilà.
Avec besoin d'être soigné, en fait.
Voilà,
alors,
tout à fait.
On va peut-être se mettre sur le côté.
On se soigne, mais on n'est jamais guéri.
D'accord. On se soigne, mais on n'est jamais guéri. Il y a toujours
Il faut être toujours vigilant.
Est-ce que vous vous souvenez de la pub ? Le problème, c'est pas moi, c'est Michel qui l'a. Michel, c'est pas moi. Dit, c'est...
Ouais. J'en ai entendu parler, oui.
Est-ce que vous pensez qu'elle est très vraie, cette pub ?
Bah oui, elle est vraie, parce qu'on se rend pas compte quand on boit. Souvent, je pense que quand on est plongé dans ce genre de situation et de phénomène, il est difficile de s'en rendre compte. C'est comme quand quelqu'un vous dit, voilà, vous êtes un abruti, je pense que le premier à pas s'en apercevoir, c'est nous. Hein.
C'est juste se cacher derrière les autres. Hein.
D'accord.
Voilà.
Et vous vous en souvenez ou pas de cette... Vous l'avez
vue ? Je me souviens de celle-ci, le type qui est bourré et qui interpelle son patron aussi. Et puis donc, voilà, le type qui renvoie toujours à ses copains, à ses amis, parce que... C'est jamais eux qui boivent, c'est les autres.
Toujours les autres. D'accord. Moi, ça va, mais...
Bah oui. Et c'est toujours pareil. C'est pas soi qu'on regarde, c'est les autres.
C'est mal vu. Voilà.
Ouais. Bah oui, non. Bah bien sûr. C'est plus facile de dire que c'est un tel ou un tel, alors que bon.
Et maintenant, un gazouillis de Jean de la Lune.
J'ai vu une mienne qui n'était pas une tienne, ni une hyène. Par contre, elle n'était pas mienne, peut-être. Quelle était ? Ah, la teneur, elle change de sujet. Pas le semeur, pas le meneur, pas celui qui raconte comment un tien vieux vaut mieux que deux tu l'auras. Alors, ah, Dieu vaut vaches et cochons. Envolé, non. Tu n'es jamais une hyène. Tu n'es jamais une hyène. Tu n'es jamais une tienne. N'oublie jamais que dans la tienne, il faut vraiment la tenir à gamelle, là. Et ça, c'est tout le bonheur du monde que je souhaite. Merci.
Rien, absolument rien. Le sympathique Végasien a beau user de toutes les ruses qu'on lui a enseignées pour rentrer en contact avec une espèce inconnue, rien à faire. Le ficus refuse obstinément de communiquer avec notre petit extraterrestre. Quelque peu ombragé par ce refus de parler, le Végasien décide de se venger et sadiquement arrache une à une toutes les feuilles du ficus. Enfant, déjà, il aimait maltraiter tout ce qui lui passait entre les mains. En grandissant, les choses ne se sont guère arrangées, et ce n'est pas pour rien qu'il a été envoyé sur Terre, la pire punition pour un extraterrestre. On lui a conseillé de faire preuve d'ouverture pour survivre parmi les terribles humains. Il décide donc de tenter de rentrer en contact avec des êtres humains, malgré la répugnance que lui inspire cette peuplade primitive. Quand il parvient enfin à entrer en contact avec un groupe d'autochtones, il est pris de panique quand il apprend que ceux-ci sont lycéens. En effet, il se souvient d'un des films qu'il a vu en cours d'ethnologie cosmique, Bowling for Columbine, film qui relate la sympathique histoire de deux lycéens qui décident de massacrer leurs camarades de lycée. Cherchant à fuir à tout prix, il attrape un vélo et se met à pédaler comme un fou. Au moment où il pense échapper enfin au terrible lycéen, surgit un camion. Le Végasien ne survivra pas au choc. Choc diplomatique. Le président Végasien déclara la guerre à la Terre et il n'y eut plus jamais de lycéens, entre autres.
Les aventures du narwhalo, c'est dans Ozone Libre. Il était une fois dans un cabinet médical de la banlieue d'Évreux. Le docteur narwhalo remplace le docteur Lambert et reçoit la visite du livreur de la pharmacie Luciole.
Bonjour, monsieur, dame. Oh là, bah bon, bah pas de douche, je suis à la bonne adresse.
Entrez, donnez-moi donc votre carte vitale.
Oui, je veux bien, docteur, mais je suis juste le livreur, moi.
Donnez-la moi quand même, vous avez la trompe siphonnée.
Hein? Vous trouvez? Non, ça va.
C'est quand même moi le toubib.
Bientôt, il va faire une test sur les cartons. À tous les coups, il va ressortir le malade, pauvre bonhomme.
Bon, c'est pas tout, mais j'ai d'autres chats à livrer, moi. Bon, je vous les mets où, les cartons?
Arrêtez de braire. Avez-vous des cas de fourmillotte aiguë dans votre famille?
Oh, je pige rien ce que vous me chantez. C'est quoi cette histoire de fourmis?
Est-ce qu'il vous arrive de tousser le matin?
En tout cas, nous, on tousse. En plus, c'est la Toussaint.
C'est la Toussaint.
Maintenant que vous le dites, c'est grave, docteur?
C'est très grave. Je vous fais donc une ordonnance. Le matin, une tarte à l'oignon bien chargée pour le transit, avec un grand verre de lait de yak sans sucre. Le tout pendant 15 jours.
L'instant est critique. Le livreur blêmit et commence à rebrousser chemin.
Hop, hop, hop. C'est 87,60€ et en espèces de préférence.
Ah, il s'embête pas, celui-là. Heureusement que c'est qu'un généraliste, sinon faudrait prendre un crédit. Vous pensez qu'il accepte les paiements en 3 fois?
Bah alors, vous partez avec le carton?
Bah je me sens pas très bien, là. Je crois que je vais rentrer chez moi. Bon, en attendant, je vous laisse mes cartons de placebo.
Alors, c'est à qui le tour?
À cet instant, personne n'ose se désigner et ne se décide à être le suivant. Qui sera le prochain patient? Qui deviendra le livreur? Et quelle est cette nouvelle médecine? Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Océan. L'océan me fait penser au calme, la détente, au son des vagues, le soir au coucher du soleil. Cela est apaisant. On est assis sur la plage, sur le sable frais. Mon rêve serait de faire une croisière sur un immense bateau, voir l'océan à l'infini, voir l'eau bleue avec les poissons, voir des îles au rivage, nager avec les poissons, voir les marins-pêcheurs. Travailler, c'est la liberté. Du moment que Poséidon ne déclenche pas une tempête, tout va bien. Un texte de Vanessa.
De pure perte, les marches forcées, les kilomètres avalés par les pieds, les courses en sac à corps perdu, les grandes conversations, l'arpentage des rues, les longues digressions, les passe-temps, des tue-le-temps, des tours de passe-passe pour abolir les herbes, les passe-temps, des tue-le-temps, des tours de passe-passe, des coups de bluff. Faire courir son chameau, peu importe l'allure et la manière, et faire passer le temps, la 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 la, faire passer le temps. Les volubiles, calambres vaines, les tirades vaines, les besogneuses, hébétudes, les gestes d'habitude, les sommes au coin des heures et autres virées immobiles. Les passe-temps, des tue-le-temps, des tours de passe-passe pour abolir les heures. Les passe-temps, des tue-le-temps, des tours de passe-passe, des coups de bluff. Faire des ronds dans l'eau, sa chimère, faire courir son chameau, peu importe l'allure et la manière, mais faire
C'était Bertrand Betsch, Les Passe-temps. Et maintenant, nous allons reprendre un gazouillis de Jean de la Lune.
Monsieur, vous nous arrivez d'air, mais j'ai l'air pur. Mais je n'ai pas vu vos ailes. Mais tes ailes, elles s'envolent, alors que les airs sont éthérés. Attention là, c'est autre chose. Alors, mais quelle gazelle! Une vraie tourterelle. Sans elle? Mais qui je suis? Ben, je manque d'air. Peut-être que j'ai un aérien. Celui-là, mais c'est pas grave. Mais, ah, j'ai retrouvé, enfin, l'air du temps.
Et maintenant, on appelle ceux du fond de la classe, Catherine et Sandrine et Vivien, pardon, pour la chronique du pôle.
La démarche de soins est centrée sur les besoins et les attentes de la personne. Aborder la consommation d'alcool peut paraître aisé tant cette substance psychoactive est présente partout. L'alcool est ancré dans notre culture. Il nous accompagne tout au long de notre vie, pour fêter une naissance, un diplôme, noyer son chagrin. Mais la réalité est tout autre. La notion d'alcool, quand on est soignant, n'est pas simple à aborder. Et peu de personnes nous renseignent sur leur consommation réelle de peur d'être jugées, dévalorisées. En effet, l'alcool est parfois envisagé dans le grand public comme un vide, comme un vice, pardon, et non comme une maladie. On dit alors qu'il n'y a rien à faire car un vice ne se traite pas. Dans le cadre de Respire, nous nous intéressons à la personne elle-même. Nous lui donnons de l'importance et ce faisant, nous lui permettons de se situer en tant que sujet. Nous l'invitons à prendre contact avec ce que la personne a été et ce qu'elle est toujours au fond d'elle-même. Nous essayons de travailler sur la valorisation, même si nous n'approuvons pas tous les actes qui nous sont posés.
C'est dans ce contexte que nous avons décidé de recevoir les personnes, même lorsqu'elles ont consommé de l'alcool, afin de ne pas rompre le lien que nous avons pu établir avec elles et de s'inscrire dans un cadre non jugeant. L'enjeu est de favoriser la motivation de la personne à changer son comportement, plutôt que d'essayer de la convaincre, voire de la contraindre. L'entretien motivationnel est une méthode de communication adaptée, qui met en avant la responsabilité de la personne dans son cheminement. Pour certains, l'alcool prend une place centrale dans leur mode de vie. Il est parfois utilisé pour son caractère anesthésiant, anxiolytique, antidépresseur. Il soulage provisoirement de la souffrance, des ruptures, de la douleur du corps. Faute de guérir, il permet de tenir au jour le jour une situation invivable et tient lieu de palliatif social. Notre objectif est de stimuler une envie de réorganiser sa vie et d'évoluer vers plus d'autonomie, en se projetant au-delà de ce fonctionnement au jour le jour.
Il existe différents types de psychothérapie et de prise en charge. Claire et moi sommes psychologues cliniciennes et nous orientons notre pratique à partir de la théorie psychanalytique.
Notre travail s'appuie sur la parole et la relation singulière avec chaque patient que nous rencontrons.
Nous n'accueillons pas des personnes alcoolo-dépendantes, mais des sujets présentant une souffrance, des symptômes, pris toujours dans une histoire singulière. Le travail en psychothérapie est de comprendre les coordonnées de la rencontre avec l'alcool. Le recours à l'alcool se fait selon des modalités différentes, parfois à son insu.
L'alcool occupe une place particulière dans l'économie psychique du sujet et ne fait pas toujours symptôme pour le patient. Il peut avoir une certaine fonction qu'il ne faut pas d'emblée remettre en question. Pour certains, il peut favoriser un lien social à minima, ou venir en réponse à un deuil, une rupture. Pour d'autres, l'alcool peut cacher, recouvrir une grande souffrance qu'un suivi permet, petit à petit, de déplier.
Finalement, un suivi peut amener le sujet à se décaler de l'envahissement de l'alcool et à se réapproprier son existence.
En conclusion de cette émission, on se rend bien compte que la question de l'alcool est complexe et sensible, et que l'on ne peut pas y apporter une réponse unique, voire univoque. Nous remercions chaleureusement notre invité, M. Emmanuel Cristobal de l'Abri. Merci. Toute l'équipe d'Ozone Libre vous donne rendez-vous pour la prochaine émission le vendredi 30 novembre de 12h30 à 13h30 avec un nouvel épisode du Narvalo. En attendant, vous pouvez nous retrouver en podcast sur sur la page d'Ozone Libre du site de Principe Actif. À très bientôt.